RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous accompagner dans ce magazine régional sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes, avec nos invités qui sont en train de prendre place, avec Jean-Pierre Benoît qui nous rejoint dans l'urgence. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonsoir Alexis, bonsoir à tous, bonsoir à nos amis auditeurs de RCF Cœur de Champagne, dans notre région Champagne-Ardennes, du côté de Châlons, mais aussi de Saint-Dizier en DAB+, puisque vous allez le voir Alexis, notre invité spécial un peu ce soir, au cours de notre magazine, est le général Lotten, qui a eu des responsabilités très importantes. Il était ancien conseiller du gouvernement pour la défense, en charge de la sécurité du numérique. On aura l'occasion bien sûr de le retrouver. Et il est bon, il a des attaches à Saint-Dizier.
Oui, tout à fait, monsieur. Bonjour aux éditeurs. Oui, effectivement, j'ai des tâches familiales à Saint-Dizier, puisque mon épouse est bragarde. Et donc, je me suis retiré, en fait, dans cette belle région de Haute-Marne, à l'issue de ma carrière militaire.
On aura l'occasion, bien sûr, dans une poignée de minutes, de vous retrouver. Quel est le programme, Alexis, ce soir ?
Eh bien, on va parler de Casino, la franchise, les magasins Casino, la fin du succursalisme. C'est ce que va proposer Jean-François Boulanger dans son regard sur le monde, puisqu'hier, une grande manifestation était organisée devant les magasins Casino. Et puis, nous serons également avec Emmanuel Guillaume pour évoquer les 5 ans de la Duduchothèque. Vous l'avez compris, Jean-Pierre, avec l'adjointe en charge de la culture de Châlons-en-Champagne, on ira faire un tour dans ce lieu emblématique de la ville. Et puis on terminera avec Christophe Manquillet, qui est photographe, qui publie son premier livre consacré au pays de Châlons. Ça peut être une bonne idée pour un cadeau de Noël, pourquoi pas, Jean-Pierre ?
Alors, pour démarrer la fin du succursalisme, vous êtes avec votre chroniqueur, on vous retrouve dans une poignée de secondes, et tout de suite après, notre émission spéciale avec le général Didier Lotten.
Regard sur le monde avec Jean-François Boulanger avec nous par téléphone. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Et on va parler aujourd'hui de Casino, l'enseigne, la fin du dernier survivant du succursalisme. Ce dimanche, le 17 décembre, donc, a eu lieu à Saint-Étienne une grande manifestation devant le siège de l'entreprise Casino. Cette dernière a été fondée en 1898 par Geoffroy Guichard. Cet événement est l'occasion pour vous de revenir sur l'histoire d'un secteur du commerce de détail dont Casino était le dernier survivant, on peut le dire comme ça, le succursalisme, Jean-François.
En effet, parce qu'il y a un parallèle à établir entre Casino, donc firme toujours en activité, mais peut-être pour une période limitée, et d'autres entreprises basées sur le succursalisme, comme Casino, et qui, elles, ont vécu et ont fait les beaux jours de notre région. Je pense au Doc Rémois, au Comptoir Français, à Goulet-Turpin, à Reims, mais aussi à l'économie moderne à Suippes, les magasins Emo, et les établissements Miel à Châlons, ce qu'on appelait dans la région les Échos.
Mais alors Jean-François, pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce qu'était le succursalisme ?
Alors, au milieu du 19e siècle, était apparu dans les grandes villes ce qui existe toujours, qu'on appelle les grands magasins, modèle Galerie Lafayette, Le Printemps, etc., qui, à cette époque, venaient concurrencer les petits commerces qui étaient désavantagés par le fait qu'elles n'offraient aux consommateurs que des marchandises en moindre variété, en moindre quantité, et à un prix souvent plus élevé, et parce qu'ils devaient tous, pour se fournir, passer par le réseau des grossistes et des semi-grossistes. Par contre, les grands magasins, c'était uniquement au centre des très grandes villes. Alors le succursalisme va apporter une sorte de mixte des deux systèmes, puisque c'est une forme de commerce intégré, dans laquelle la fonction d'achat en gros et de logistique était assurée par une centrale d'achat, et la fonction de vente au détail par différentes succursales, dispersées géographiquement, parfois très loin de cette centrale d'achat.
À quel moment le succursalisme apparaît ?
Alors, à la fin du 19e siècle, si on prend la firme Goulet-Turpin, elle résulte du mariage entre M. Modeste Goulet et Mme Eugénie Turpin en 1874, mais en fait, Goulet-Turpin ne se développera vraiment que dans les années 1890. La décennie 1890 est caractérisée également par la fondation des établissements Miel à Châlons-en-Champagne en 1893, par la fondation des comptoirs français en 1897, celle de Casino en 1898. Quant aux Doc Rémois, plus connus sous le nom de famille Lister, notamment à Reims, ils avaient été créés un peu plus tôt, en 1887.
Quelles sont les personnes, Jean-François Boulanger, qui fondent ce type d'établissement ?
Alors, ce sont souvent des gens qui travaillaient en fait déjà dans le domaine de l'épicerie ou dont la famille était déjà dans la profession. C'est le cas par exemple à Reims d'Édouard Mignot, qui a joué un rôle dans la fondation des comptoirs français et des docks rémois. Il avait débuté comme grossiste en épicerie avec Eugène Bonan et à la mort de ce dernier, il a repris à son compte des magasins à but philanthropique qui avaient été créés par la confrérie Notre-Dame de l'Usine pour fonder donc les établissements Mignot et compagnie qui prendront ultérieurement le nom de comptoir français. Voilà un premier exemple. Modeste Goulet, on en a parlé, lui il est né à Joncherie sur Vesle, c'est le fils d'un peigneur de laine, donc origine plutôt modeste, qui a d'abord été apprenti épicier avant de se mettre à son compte en louant donc son premier magasin en 1874. Et en 1880, il achète alors un magasin qu'il va nommer Goulet-Turpin en associant son nom à celui de la famille pour ne pas qu'on confonde avec une marque de champagne de l'époque. Quant à Geoffroy Guichard, qui aujourd'hui est plus connu pour le stade de football de l'AS Saint-Étienne, c'est également un fils d'épicier qui s'associe avec son beau-père, également épicier, pour fonder une grosse épicerie. Et Jean-Baptiste Miel, à Châlons, est un négociant qui s'associe avec un comptable, l'étendard, pour créer donc ce qui va devenir les Échos.
Que l'on comprenne bien les choses, Jean-François, que l'on soit bien d'accord. En tout cas, il y a donc dans le succursalisme deux types de structures très différentes l'une de l'autre. Oui. Les succursales qui sont des magasins de détail et par ailleurs tout ce qui relève de la centrale d'achat.
Voilà, et les magasins de détail quadrillent littéralement le territoire urbain. Si on prend le cas de Châlons-sur-Marne, pour reprendre l'expression de l'époque, il n'y avait pas un habitant de la ville, en dehors de ceux qui habitaient aux extrémités de cette dernière, qui n'ait à proximité de chez lui un écho, comme on disait. Exemple, qu'il parlera aux Chalonnais, sur les 500 mètres de la rue Chevalier, il y avait deux magasins Écho. À Reims, où la concurrence était forte entre les deux ou trois magasins succursales multiples, eh bien, au carrefour de certaines rues passagères, à deux ou trois des quatre coins du carrefour, eh bien, il y avait un magasin de ce type qui pouvait être un Familistère, un Goulet-Turpin, etc. Mais on rencontrait aussi ce type de magasin dans les villages, parfois plusieurs. Par exemple, le village de Tours-sur-Marne avait à la fois un Écho, donc relevant de Châlons, et un Goulet-Turpin relevant de Reims. Au total, donc Casino, par exemple, avait en 1921 1000 succursales et 500 concessions au sens de concessions automobiles dans 28 départements, principalement dans le sud de la France. Il y avait 304 Goulets en 1913, principalement dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes, et 700 en 1939. Les comptoirs français ont eu jusqu'à 1500 succursales dans notre région et en région parisienne, où ils étaient bien implantés, le siège ayant été transféré à Pantin. Les Échos, 500 dans la Marne, la Haute-Marne, la Meuse et Lyon, et les docks rémois à 869 dans 14 départements en 1914.
On l'a bien compris, beaucoup de magasins, Jean-François, mais qu'est-ce qui relève de la centrale d'achat ?
Alors, la centrale d'achat, c'est d'abord des entrepôts, j'allais dire comme aujourd'hui encore dans le cas des supermarchés, mais aussi, c'est plus original, des ateliers de transformation de produits agricoles en produits alimentaires. C'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent de la marque distributeur aujourd'hui dans les supermarchés, sauf que c'est le magasin à succursales multiples qui fabrique lui-même un certain nombre de produits. Donc, à côté des entrepôts de ces grands magasins à succursales multiples, par exemple les docks rémois à Reims, on pouvait fabriquer du pain, de l'huile, du chocolat, torréfier du café, distiller et fabriquer des liqueurs maison. Tout cela étant vendu sous le nom du magasin à succursales multiples. C'est le cas donc à Casino, c'est resté très longtemps, au Docks rémois et à Goulet-Turpin. Et il y a eu par exemple au Docks rémois jusqu'à 6000 personnes employées dans les entrepôts et les ateliers de transformation.
Ce qu'il faut dire, Jean-François Boulanger, c'est que Reims a perdu dans les années 1970-1980 ses magasins à succursales multiples, mais Casino a réussi à se maintenir, du moins jusqu'à aujourd'hui, et cette fameuse assemblée dont vous nous parliez en début de chronique le 17 décembre.
Absolument, le succursalisme a eu son heure de gloire, mais après la Deuxième Guerre mondiale, les grandes firmes ont compris qu'il fallait s'adapter, mais tout le monde ne l'a pas fait au même rythme. En 1947, la profession va organiser un voyage aux États-Unis pour voir comment justement dans ce pays, qui est généralement en avance sur les autres, eh bien les choses évoluent. Et donc participe à ce voyage Pierre Guichard, l'héritier de Casino, et Pierre Goulet, l'héritier de Goulet-Turpin. Et tous deux vont ramener du nouveau monde le concept de magasin en libre-service, et tous deux créent l'année suivante les deux premières succursales en libre-service. 10 ans après, Casino en compte 500. En septembre 1957, un peu plus tard, Casino ouvre son premier supermarché sous la marque Nicap à Nice, et Goulet le fait un peu plus tard à Rueil-Plaine, donc le 15 octobre 1958. Et en fait, les Rémois prennent du retard. Certes, les trois grandes sociétés rémoises vont créer leur hypermarché à Reims, ça s'appelle Radar pour les docks rémois, aujourd'hui c'est Intermarché. La Montagne pour les docks français. Aujourd'hui, c'est Cora Cormontreuil. J'aime pour Goulet-Turpin. Et aujourd'hui, donc, c'est Carrefour Tinqueux. Mais parallèlement, elles avaient profité des difficultés des entreprises succursalistes les plus fragiles pour en prendre le contrôle. C'est ainsi que Goulet-Turpin s'était emparé, entre autres, d'Économie Moderne de Suip. Donc, elles maintiennent par ailleurs pendant assez longtemps leurs activités industrielles. Et tout ça va les handicaper dans leur mutation qui n'a pas sans doute été assez audacieuse. Et de ce fait, à la fin des années 70 et dans les années 80, ces marques rémoises disparaissent et avec elles tous les entrepôts. Aujourd'hui, effectivement, c'est par exemple la zone de Clermarais où il y avait effectivement Goulet-Turpin. C'est repris par différentes entreprises. Casino, lui, par contre, va réussir son passage à l'époque des hypermarchés. Mais vous le voyez, peut-être bien qu'aujourd'hui, cette histoire du succursalisme, ou en tout cas des entreprises qui sont nées avec elle, est peut-être en train de connaître son épilogue.
Eh bien, merci Jean-François Boulanger de nous avoir parlé de cette histoire du succursalisme et qui est liée évidemment au magasin Casino et à Geoffroy Guichard du côté de Saint-Étienne. À très bientôt Jean-François Boulanger.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Il est 18h20, nous sommes en direct sur RCF avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes sur toutes nos fréquences et aussi en DAB+. Et puis aussi, il faut le signaler Alexis, on pourra retrouver l'interview que nous allons diffuser en direct du général Didier Lautten sur, j'allais dire les réseaux sociaux, mais aussi sur Facebook peut-être.
Effectivement, mais Facebook fait partie des réseaux sociaux, Jean-Pierre.
Oui, bien sûr.
Vous n'ignorez pas. Mais
devant le général Lautten qui s'occupe du numérique, c'est un peu basique.
Parce que ce qu'il se passe, c'est que le général Lautten, on va le retrouver une première fois là dans quelques secondes avec vous.
Jusqu'à 18h30.
Et puis après le journal également. Donc nous, on va rassembler les deux interviews pour en faire qu'un seul morceau, si j'ose dire. Et donc on diffusera cette vidéo sur la plateforme YouTube qu'on relaiera évidemment sur nos différents réseaux sociaux, la page Facebook @RCF Reims-Ardennes, le compte Twitter X maintenant @RCFRA.
Général Didier Lautten, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien conseiller du gouvernement pour la défense en charge de la sécurité du numérique. Alors votre parcours, vous avez dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que vous étiez attaché à la cité Bragarde, Saint-Dizier. Nous, on a en mémoire la base aérienne 113 qui existe toujours avec les Rafales à Saint-Dizier, bien connue, bien sûr. Vous êtes dans l'armée de l'air depuis... Vous étiez dans l'armée de l'air depuis pas mal d'années. Vous avez toute votre carrière et vous êtes devenu général 4 étoiles. C'est assez prestigieux, général 4 étoiles.
Ah ben, je vous remercie. J'ai débuté cette carrière en 1978, au plus bas niveau de l'échelle. C'est l'école qui existe toujours, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, à Saintes, qui est aujourd'hui frappée en fait par les inondations, pour ceux qui ont du mal à cerner où se trouve Saintes, en Charente-Maritime. J'y suis rentré en fait en tant qu'apprenti mécanicien. Et puis l'armée de l'air, en fait, c'est, et je pense que nos armées en règle générale, ce sont de formidables escaliers sociaux. C'est-à-dire qu'ils permettent en fait pour ceux qui s'en donnent le cœur et l'envie, la capacité à gravir tous les échelons. Et j'ai débuté en fait apprenti mécanicien, donc aviateur, donc je dirais seconde classe, hein, pour parler plus facilement pour nos auditeurs, jusqu'au grade de général 4 étoiles. Dans une carrière très diversifiée, tant dans le domaine aéronautique au plus près des avions, puisque j'étais première affectation opérationnelle basée ici à la BA-112 de Reims, feu BA-112, à l'escadron de chasse 130 Valois. Et puis ensuite, j'ai breaké à un moment donné, c'est le terme d'aviateur, j'ai breaké vers la sécurité des informations en 1992.
On va breaker, nous, sur votre parcours, parce qu'au fond, vous n'êtes pas resté éloigné de l'avion. C'est-à-dire que lorsque vous allez parler ensuite de cybersécurité dans le domaine de la défense, ce n'est pas un domaine hors sol dans lequel vous vous êtes propulsé. Il faut dire que dans votre parcours, vous avez ensuite, j'allais dire, comme on dit, gravi les échelons. Et puis comment, au moment où naissait l'informatique, vous avez pu prendre le train en marche pour vous initier à ces nouvelles technologies qui laissent parfois sur le côté pas mal, peut-être même d'auditrices et d'auditeurs qui nous écoutent.
Alors c'est vrai que quand j'ai fait ce break en 1992, l'informatique a été encore très balbutiante et réservée en fait à quelques domaines réservés. Mais quelque part en fait la sécurité de cette information, c'est quelque chose, et c'est ce que j'explique aux petits jeunes en fait, j'ai fait une petite intervention tout à l'heure
avec Saint-Jean-Baptiste,
avec Saint-Jean-Baptiste, tout à fait, je leur ai effectivement expliqué qu'ils s'inscrivaient dans une continuité temporelle, c'est-à-dire que c'est la sécurité de l'information en fait, c'est depuis la nuit des temps, depuis Jules César, et donc c'était un domaine réservé à la diplomatie aux militaires. Donc essentiellement sur la confidentialité des informations. Et puis avec l'arrivée des technologies, Fin des années 70, début des années 80, et cette généralisation et cette diversification de ces technologies, on a eu effectivement le sentiment de sécurité pour ces technologies s'est fait plus prégnant.
La défense d'un État aujourd'hui, elle est multipolaire. Il y a bien sûr, on pense aux chars, surtout avec des théâtres européens, mais il y a aussi la technologie, surtout la technologie. Et puis aussi dans la société française, on utilise des technologies. Et la défense, elle s'intéresse beaucoup à la vie des Français et des Français d'aujourd'hui. Et donc là, il y a des problèmes de sécurisation des systèmes d'information.
Oui, tout à fait. En fait, comme vous le dites, cette dépendance extrême au système d'information, imaginez en fait un auditeur qui demain ne puisse plus accéder à son distributeur de banque puisqu'il a été hacké par un hacker. On peut imaginer en fait la réaction de la population. Donc on doit se donner des moyens effectivement pour sécuriser ces systèmes d'information qui sont en fait, maintenant on est intrinsèquement liés à notre façon de vivre. On peut plus se passer, je vous disais juste avant l'interview en fait, je vous parlais, je suis venu depuis Saint-Dizier pour pas me perdre en fait, arriver directement ici, j'ai utilisé le GPS, sans la technologie j'avais pas le GPS. Donc la cybersécurité a cette qualité caractéristique d'être transverse à tous les milieux physiques, qu'ils soient en fait terrestres, maritimes, aériens ou spatiaux. Et c'est cette particularité qui oblige effectivement être présent partout. Et donc pour les jeunes en fait avec qui j'ai pu échanger tout à l'heure, je leur ai dit ils avaient une assurance à 100% de trouver un emploi à la sortie de leur scolarité.
Ça, on va l'évoquer donc avec les jeunes de Saint-Jean-Baptiste de la Salle et du groupe ESSEP qui existe aussi à Angers dans le sud de la France. Il faut dire en général que vous avez franchi tout cet escalier et à un moment donné vous êtes trouvé sur les escaliers du ministère de la Défense avec la ministre elle-même. Vous étiez son conseiller.
Oui, tout à fait. Enfin, plus précisément du directeur de cabinet de l'époque, sur une mission en fait particulière qui m'a été confiée de proposer une nouvelle organisation de gouvernance de la sécurité du numérique au sein du ministère des Armées.
Mais vous-même, vous vous y êtes mis, enfin, on imagine, vous dites j'étais apprenti mécanicien, j'étais, je ne dis pas dans l'huile, je ne sais pas, des moteurs, c'était pas l'époque encore des rafales, mais vous y êtes mis, et vous parlez cryptologie, vous parlez de ces fameux théorèmes mathématiques qu'on utilise aujourd'hui pour sécuriser les systèmes RSA et puis beaucoup d'autres.
Oui, je dirais que c'est la force aussi de notre institution militaire, c'est de proposer, d'une part, en fait, c'est extraordinaire en termes de formation continue, puisque j'ai eu l'impression d'être toujours à l'école, entre deux activités opérationnelles, et cette force, en fait, de savoir développer les compétences. Et puis, c'est la chance pour ceux, alors, je veux pas faire de prosélytisme et faire en sorte que tous les petits jeunes que j'ai vus tout à l'heure rejoignent nos armées, mais je veux pas être sergent recruteur, mais quelque part, ils pourront trouver dans nos armées une diversité de carrières extraordinaire. En fait, tous les 2-3 ans, on change de métier. Et c'est ce qui fait notre force et notre prix d'avance.
Alors, ces jeunes, vous les avez rencontrés tout à l'heure. Et vous dites, dans les emplois militaires, mais aussi dans les emplois civils, aujourd'hui, on recrute. Et vous-même, aujourd'hui, mon général, vous êtes, entre guillemets, on peut le dire, dans le privé. Vous gérez, enfin, vous occupez de la sécurité d'une grande entreprise dans le milieu des maisons de retraite. Exactement, vous pouvez préciser.
Oui, je suis directeur cybersécurité du groupe Clarian, qui est un grand groupe, en fait, de santé sociale, premier groupe européen dans le domaine santé sociale, bon, sur la partie EHPAD, clinique. Et effectivement, même dans ces métiers, et surtout dans ces métiers, parce que lorsqu'on observe, en fait, on a pu observer depuis 2 ans, en fait, des attaques contre les hôpitaux, de la part de hackers, ce sont des métiers pour lesquels, en fait, on pensait qu'ils allaient être, non attaqués par les hackers, pour des raisons éthiques, et aujourd'hui, il n'y a plus d'éthique. Donc, même ces métiers, en fait, de santé, qui sont essentiels, sont attaqués, et donc, il faut effectivement savoir sécuriser tous ces métiers.
Et vous faites profiter de votre savoir-faire dans le domaine de la défense pour faire profiter de vos compétences, celles et ceux qui sont aujourd'hui dans les systèmes hospitaliers.
Tout à fait. Et, mais au-delà de tout ça, ce que j'ai dit aux jeunes, moi j'adore en fait le contact avec les jeunes, la petite équipe que j'ai dans le groupe Clariane en fait.
On ne surfait pas, vous étiez sur le terrain, vous y êtes resté d'une certaine façon.
Le plus âgé en fait a 33 ans et ça fait plaisir parce qu'on ne vieillit pas quand on est au contact de jeunes. Et là clairement, ce que je disais, j'ai ce rôle de passeur. Et c'est pour ça que quand on m'a invité à faire cette intervention, j'y ai répondu favorablement parce que je trouve essentiel d'avoir ce rôle de passeur.
Merci Général Didier Lautel, on se retrouve dans une poignée de minutes, il est 18h30, nous sommes en direct sur RCF, c'est l'heure du journal régional avec Alexis Claudretz qui est en direct avec nous.
Avec les titres de ce lundi 18 décembre 2023, immersion à Cernay-les-Reims où une crèche en paille et épis de blé trône fièrement sous le porche de l'église Saint-Martin. 3 buts encaissés en 4 minutes pour une lourde défaite, 4 buts à 1 face au leader de la Ligue 2, Angers. Le nouveau coach de l'Estac, David Guillon, n'a rien pu faire pour sa première sur le banc troyen.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Depuis 5 ans maintenant, Monique habille le porche de l'église de Cernay-les-Reims, près de Reims, d'une crèche en paille et épis de blé pour donner vie à l'édifice en cette période de fête de Noël. Elle revient sur l'origine de ce projet au micro de RCF France-Ardenne.
C'est le chemin des crèches qui m'a donné cette idée-là. Puis c'était dans ma tête déjà depuis quelques années. Oh, je disais, qu'est-ce que ça serait bien dans ce porche? Ça s'y prêterait tout à fait, quoi. Surtout que c'est abrité de tout, de la pluie, du vol et de tout, quoi. Donc du coup, ben voilà, on s'est mis dans mon sous-sol et on a créé cette crèche. Et surtout que ce porche-là, depuis mes fenêtres, chez moi, je le vois. Et j'ai toujours eu dans ma tête de mettre une crèche pour redonner du peps à ce porche. Il est tellement beau, puis cette église est très belle aussi.
Au départ, seulement quelques sujets composaient la crèche, Joseph, Marie et Jésus. Au fil des années, de nouveaux personnages sont venus étoffer le décor. Les rois mages, un ange, un berger et ses moutons, et bien d'autres encore. Pour en arriver là, patience et créativité ont guidé ce chemin.
C'est surtout beaucoup d'imagination, je crois aussi. Parce que rien que pour faire les cheveux, vous voyez, j'ai pensé à prendre les épis. Hein, comme faire la couronne de la Vierge. Les rois mages, ils ont sur la tête les turbans, là. Et les barbes sont faites avec des perruques que j'ai découpées. Et sur la tête du mouton noir, c'est ça aussi. Cette année, j'ai déjà fait évoluer avec tous les petits sujets que vous voyez blancs. J'ai pris une planche de bois et dessus, j'ai collé de la mousse, des bois, et j'ai mis des petits sujets blancs. Ça illumine un peu plus la crèche.
La crèche est à découvrir quand vous le souhaitez, jusqu'à mi-janvier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous le porche donc de l'église Saint-Martin de Cernay-les-Reims. Le mieux c'est d'y aller tout de même après 17 heures, lorsque la nuit est tombée, pour profiter des illuminations qui valorisent le décor. Jean-Pierre, je vois que vous n'avez plus vos lunettes et ça m'inquiète un petit peu.
Ah pourquoi?
Parce que si vous ne savez pas quoi faire de vos lunettes endommagées ou non utilisées, sachez que Harmonie Mutuelle organise une collecte solidaire jusqu'au 23 décembre. Les lunettes collectées seront reconditionnées avant d'être remises sur le marché français ou transmises à des associations humanitaires. En région, rendez-vous dans les points Harmonie Mutuelle présents à Reims, Châlons-en-Champagne, Sedan, Charleville-Mézières, Troyes-Saint-Dizier et Chaumont. Si jamais vous en avez chez vous qui traîne, Jean-Pierre, à la maison, c'est le moment de vous en débarrasser pour une bonne action.
Très belle initiative, en tout cas Alexis, vous avez raison. Et sans doute, des auditrices et des auditeurs peuvent s'y intéresser. Vous avez évoqué Cernay. Je vous signale que demain, dans l'émission Votre Mère nous parle, notre invité sera Romain Bonhomme. Il n'est pas très loin de Cernay. Il est maire de Benneroy.
On le retrouvera à midi sur RCF Reims-Ardennes et demain soir dans le magazine régional. Et puisque l'on parlait de quelques villes comme Reims, Châlons-en-Champagne, Sedan, Charleville-Mézières, Troyes ou encore Saint-Dizier, l'occasion aussi de rappeler que dans ces villes, les marchés de Noël continuent de battre leur plein. Cette semaine, ça peut être l'occasion d'une promenade en famille ou entre amis, mais aussi de profiter pour effectuer ses derniers achats de Noël. Sport, football, une bonne nouvelle d'abord en D1 Arkema. Les Rémoises ont confirmé leur bonne forme en dominant Lille 5-2 et se maintiennent à la 4e place du classement. En revanche, en Ligue 1, le stade de Reims s'est incliné sur la pelouse du Racing Club de Lens. 2-0, Reims reste 8e avec 23 points. Pour sa première sur le banc troyen, le coach David Guillon a encaissé un lourd revers samedi soir, 4-1 face au leader Angers. Pourtant, la rencontre démarrait plutôt bien pour les Troyens. David Guillon.
La première demi-heure était cohérente. Elle était dans ce que l'on avait souhaité de faire dans un premier temps. On connaissait la qualité technique et l'expérience et la maturité donc de cette équipe d'Angers. En toute honnêteté, hein, le but, il est très heureux. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu. On mène au score. Après, il y a cette belle action de Kylian et puis celle de Rafiki.
Malgré une bonne entame de match et une ouverture du score troyenne, la réalité a vite rattrapé les Champenois.
En 3 minutes, c'est impossible d'avoir des sauts de concentration, d'attention, sortir du match comme ça. C'est pas possible, le haut niveau, ça demande beaucoup plus d'exigence à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'après, les joueurs sont atteints. Évidemment, vu la situation de l'équipe, vous savez aussi qu'il y en avait quelques-uns qui débutaient. Donc ça a inévitablement des répercussions. Je pensais qu'à la mi-temps, comme j'aurais dit, c'était de gagner cette deuxième mi-temps, de mettre au moins ce deuxième but pour voir comment allait réagir cette équipe d'Angers, parce qu'on a vu qu'on était capable de la mettre en difficulté. On a eu des situations tout de suite, et malheureusement sur un contre, encore une fois, avec beaucoup de naïveté, on prend ce quatrième, et là, en effet, c'est fini, et puis les joueurs ont été atteints par ce quatrième but en juin.
Au classement, 3 recule à la 15e place avec 19 unités. Prochain match pour les Aubois, demain soir, ça arrive vite, 20h45, sur la pelouse de Pau. Le reste des résultats sportifs du week-end sont mitigés. En volley, Chaumont s'impose 3-7-0 à 7 et s'envole en tête du classement. En basket, les Flammes Carolo se donnent de l'air en Ligue féminine grâce à un succès 64-59 face à la Roche-Vendée. Et enfin, en Pro B, le Champagne Basket rate le coche une nouvelle fois face à Boulazac et s'incline 82-79 avec 3 victoires et 8 défaites. L'Alliance champenoise est 14e du championnat. Comme tous les soirs, on termine par la météo à 18h36. C'est avec notre stagiaire à la rédaction, Kylian Janot. Bonsoir Kylian, quelles sont les tendances pour ce mardi en Champagne-Ardenne ?
Bonjour Alexis, pour la journée de demain, il faudra rester vigilant en raison du brouillard attendu. Les températures matinales seront relativement basses, atteignant 2 degrés dans les Ardennes, 1 degré dans la Marne et 0 degré dans l'Aube. En cours de l'après-midi, la météo devrait s'améliorer avec la disparition du brouillard laissant place à des nuages. Les températures atteindront environ 5 degrés dans les Ardennes, 6 degrés dans la Marne et seront comprises entre 4 et 7 degrés dans l'Aube. Pour la soirée, il convient d'être prudent en raison du brouillard qui sera accompagné de pluie. N'oublions pas de souhaiter une agréable fête à tous les urbains.
Merci Kylian, on vous retrouve demain et tout au long de la semaine pour votre dernière semaine de stage avec d'autres nouvelles du ciel. Ainsi se referme le journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF, édition spéciale avec notre invité le général Didier Lautten au micro de Jean-Pierre Benoît.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
18h37, on reprend notre interview avec vous, mon général Didier Lautten. On vous a présenté, pour celles et ceux qui nous reprennent en cours de route, comme ancien conseiller du gouvernement pour la défense en charge de la sécurité et du numérique. Vous avez rencontré un certain nombre d'étudiants à l'école au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, avec une école qui se met en route, qui s'appelle l'ESSEP et qui forme des ingénieurs, et peut-être aussi dans le cadre de la cybersécurité. Alors c'est vrai, on s'adresse aux militaires qui aujourd'hui dans le privé, c'est que finalement l'armée, et vous y avez participé, a contribué à former des mentalités à des jeunes qui y croyaient, qui voulaient travailler. Ah, il y en a partout dans la société et ils ne font pas forcément l'armée, mais vous-même vous y contribuez, et là vous avez su dénicher parfois des jeunes qui ont monté les marches de ce qui est aujourd'hui plutôt un escalier social qu'un véritable ascenseur. Et ça, vous y êtes toujours très attaché.
Oui, tout à fait. Enfin, je suis attaché effectivement à cette, extrêmement reconnaissant à cette capacité qui m'a été offerte par l'institution militaire de pouvoir gravir effectivement ces marches. J'en suis tellement attaché que je suis président de l'association des anciens élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air par laquelle j'ai débuté. Et ce contact aux jeunes et ce rôle de passeur. J'ai en fait deux facettes. J'ai la facette de militaire et puis j'ai la facette de spécialiste en cybersécurité. Et m'apporter en fait de jouer ce rôle de passeur avec les jeunes générations, parce qu'il y a un besoin extrêmement important de compétences et d'expertise en fait dans ce domaine de cybersécurité.
On recrute
énormément. Et donc c'était de faire sentir en fait le but de mon propos qui a duré une petite heure, et après avec des échanges très intéressants avec les jeunes qui sont poursuivis en petit comité, c'était de leur faire sentir que ils avaient les bras ouverts en fait côté tant en militaire, puisqu'on recrute dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire, nous recrutons en fait des cybercombattants, c'est comme ça qu'on les dénomme en fait dans le ministère des Armées, mais dans le privé, parce qu'effectivement avec la réglementation européenne qui sera transposée dans le droit national en octobre 2024, elle imposera des obligations à nos entreprises en matière de cybersécurité, et donc pour appliquer et mettre en œuvre ces obligations, il faudra bien en fait de les compétences, et les compétences viendront de ces jeunes cerveaux en construction en fait ici au sein de cette école d'ingénieurs.
À plus ou moins long terme, il va falloir que toutes les entreprises s'y mettent dans le domaine de la cybersécurité.
Ah ben c'est une obligation. Je dirais que au-delà de l'obligation réglementaire, c'est surtout une obligation, je dirais, de survie même opérationnelle. C'est-à-dire qu'on perd une activité, on se fait cyberattaquer, on perd l'activité opérationnelle.
Alors vous avez essayé de lancer ce message à des jeunes qui sont en formation, ils sortent du bac, ils avancent et ils cherchent leur voie. C'est pas toujours facile. Et comment s'est passé le contact cet après-midi ?
Je pense que globalement c'est très très bien passé, et je pense que j'espère tout au moins avoir assuré cette fonction d'éclaireur et leur montrer qu'il y avait une lumière, et que cette lumière en fait il y avait vraiment une capacité de faire une carrière hyper intéressante dans sa diversité dans le domaine de la cybersécurité.
Motivation, lumière qui nous anime. Vous l'avez senti, vous, Laurent Marchand, qui êtes le directeur de l'ESSEP sur le campus de Reims aujourd'hui, avec les jeunes que vous avez fait rencontrer, le général Lauten qui est avec nous.
Oui, comme je l'ai dit à nos jeunes, c'est un grand privilège de pouvoir recevoir le général Lauten au niveau de l'établissement. Un retour sur l'expérience qui est quand même assez exceptionnel, sur un métier qui est quand même assez passionnant et qui est tendu par ces jeunes. Et on l'a pu le voir, cet intérêt des jeunes au travers donc de cet échange, parce que à l'issue de l'exposé qui a été fait par le général, il y a un certain nombre de jeunes qui sont restés et qui sont restés pour poser des questions et aller encore plus loin dans l'échange avec le général.
Ça vous rappelle vous-même, est-ce qu'à un moment donné, vous, général Lauten, qui avez commencé, vous l'avez dit, en bas de l'échelle de l'armée, si on peut dire, si on peut caricaturer, et que vous arrivez comme général 4 étoiles aujourd'hui, vous avez eu des personnes dans l'armée ou ailleurs, mais surtout dans l'armée, qui vous ont pris par la main pour vous aider à monter cet escalier?
Je pense que c'est le fait de toute carrière. C'est-à-dire qu'on construit une carrière avec des mentors. Et donc, j'ai eu cette chance d'avoir à plusieurs moment de ma carrière, en fait, de vrais mentors, de vrais exemples. J'ai tenté, en fait, de les égaler, de leur ressembler, avec mes particularités. Et je pense qu'une carrière, quelle qu'elle soit, hein, militaire, privée, peu importe, on a besoin de ces piliers, de ces mentors, de ces références pour parfois nous réaligner, parce que des fois, on part un peu dans tous les sens. Et je pense que c'est important de... C'est pour ça que je porte une attention particulière à ce rôle de passeur, de montrer en fait mon expérience et d'inspirer en fait les plus jeunes.
Alors vous avez une expérience en métropole, bien sûr, vous avez été sur le terrain, dans les bases aériennes, bien évidemment, mais aussi en Outre-mer. Vous êtes allé en Guyane, là vous aviez une responsabilité un peu particulière.
Oui, j'étais le commandant supérieur des forces armées en Guyane de 2017 à 2020, donc c'était mon dernier poste opérationnel. C'est une vraie chance pour un officier général, parce que c'est un poste opérationnel à temps plein pendant 3 ans. Je dirais revenir vers la vraie vie des gens, parce qu'on a une responsabilité en fait de nos soldats. Parce que là, je commandais en fait des soldats, enfin des marins, plutôt de l'armée de terre, de l'armée de l'air, avec le danger en fait inhérent à ces opérations intérieures, que sont la lutte contre le repaillage illégal, la lutte contre la pêche illégale et la protection du centre spatial guyanais. Avec malheureusement en fait dans cette vraie vie des moments plus malheureux avec la perte de soldats. J'ai malheureusement perdu 5 soldats en fait en opération là-bas. Mais cette expérience en fait de militaire, et moi c'est ce qui m'a passionné tout au long de ma carrière, c'est ce contact humain et ce contact à l'homme, et cette responsabilité en fait de faire en sorte que ces hommes et ces soldats qui sont prêts à donner leur vie, on les mette en situation telle qu'ils ne l'exposent pas trop. Voilà.
Alors le numérique, c'est important. Vous êtes, j'allais dire, au gouvernement, vous avez été conseiller sur le numérique et en matière de défense dans la sécurité numérique. Mais il y a quand même aussi le renseignement, le contact humain. On ne va pas s'y attarder, mais par exemple, pour le renseignement, c'est quand même important d'avoir aussi, à côté du numérique, des hommes et des femmes qu'on rencontre sur le terrain et qui vous donnent quelques infos tout de même.
Il y a le renseignement et je profite en fait de la période de l'année où là c'est pour les auditeurs qui ne se fassent pas avoir en fait effectivement ce qu'on appelle les attaques par un ingénierie sociale. C'est un coup de fil que vous pourriez avoir de quelqu'un qui se fait passer pour un tel et qui essaye en fait d'avoir vos coordonnées bancaires pour pouvoir accéder à vos comptes. Donc ce renseignement humain.
Alexis en a été victime il y a très peu de temps.
J'ai pas donné mes coordonnées bancaires.
Il a réussi.
J'ai eu un brouteur qui est arrivé ce midi se faisant passer pour la poste, pour ceux qui veulent savoir.
Voilà. Alors mon général, c'est l'heure de nous quitter, le temps passe très vite. Vous allez peut-être revenir un autre jour, puisque vous êtes à Saint-Dizier maintenant, dans cette école où vous allez rencontrer des jeunes. Vous les avez trouvés combatifs, en tout cas intéressés, et en tout cas toujours à l'affût de possibilités pour leur avenir. Et vous dites, dans le domaine de la cybersécurité, il y a de la place, il y a des postes, est-ce qu'il faut retenir ?
Tout à fait. Et la relève est présente. Et donc c'est très rassurant pour l'ancien que je suis.
Merci en tout cas, Général Didier Lauten, d'avoir été avec nous. Et rappelons que vous êtes ancien conseiller du gouvernement pour la défense, en charge de la sécurité du numérique. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. À bientôt sur RCF, la suite du magazine régional dans un instant.
Merci.
Le 18-19 sur RCF.
Et la suite, c'est un tour du côté de Châlons-en-Champagne, à la Duduchotec, située rue Léon Bourgeois, qui fête ses 5 ans d'hommage, de rire et d'animation. Retour sur l'origine de sa création et de ses 5 années avec Emmanuelle Guillaume, adjointe à la mairie de Châlons-en-Champagne, en charge de la culture, qui est en ligne avec Christopher Fausten.
Emmanuelle Guillaume, bonjour.
Bonjour Christopher.
Avant de faire un retour justement sur les 5 ans, est-ce qu'on peut présenter à nos auditeurs l'origine justement de sa création ?
Alors la Duduchotec, elle a ouvert le 1er décembre 2018. C'est donc un espace dédié à Jean Cabu, dit Cabu. Elle est située rue Léon Bourgeois. Et c'est une adresse qui n'est pas anodine. Effectivement, on peut rappeler que Léon Bourgeois, c'est le prix Nobel de la paix en 1920. Donc c'est pas anodin au regard des idées, de la philosophie du grand pacifiste qui était Cabu. Donc ce lieu, c'est un lieu effectivement qui accueille tous les publics gratuitement toute l'année.
Ce lieu, en hommage à Cabu, le dessinateur qui a été assassiné lors des attentats de Charlie Hebdo, Cabu, qui était de base chalonnais.
Exactement, natif de Châlons, il a fait ses études au lycée Bayen, il a plein de lieux coup de cœur et de lieux caricaturaux qui sont racontés dans son parcours, qui sont racontés dans tous ses dessins de jeunesse. C'est la Duduchotec, on retrouve tout le fond de ses dessins de jeunesse. Donc c'est une histoire, c'est un témoignage de sa vie à Châlons, de son œil critique, de son œil malin. Il croquait les Chalonnais, il croquait plein de scènes qu'on connaît tous, que ce soit les cafés où il allait, les balades qu'il faisait. Et donc c'est également effectivement un parcours dans le Châlons qui aimait particulièrement Cabu.
Châlons-en-Champagne a voulu en faire un hommage en ouvrant ce lieu donc depuis plus de 5 ans désormais, avec beaucoup de choses durant ces 5 années. On en parlera dans un court instant, mais avant justement de revenir sur les faits marquants de ces 5 années, Emmanuelle Guillaume, est-ce qu'on peut d'abord faire un retour ? Quel retour faites-vous de ces 5 ans ?
Alors comme vous le rappeliez, effectivement, ça fait 5 ans que la Duduche est ouverte. C'est un travail qui a été mené, accompagné de Véronique Cabu, donc la veuve de Cabu, qui tenait vraiment à ce que la ville de Châlons, la ville de cœur de Châlons, de Cabu, la ville natale de Cabu, soit le lieu de témoignage, de transmission, d'accueil de toute son offre de jeunesse. Donc on a eu beaucoup de réflexions et un travail partenarial vraiment admirable pour faire de la Duduche ce lieu mémorial. Et c'est un lieu de vie, un lieu d'expérience. Effectivement, depuis 5 ans, il s'y passe beaucoup de choses, on accueille beaucoup d'événements. Et c'est un lieu d'expérience puisque à chaque événement, à chaque exposition, on en ressort toujours avec le sourire, toujours avec une bonne humeur et toujours avec ce côté critique et cet esprit critique qu'on a souhaité dans la Duduchotec. C'est certes un lieu d'exposition, mais c'est un lieu qui fait écho et qui résonne énormément au regard des sujets d'actualité.
Emmanuelle Guillaume, adjointe à la mairie de Châlons-Champagne, en charge de la culture avec nous aujourd'hui en ligne sur RCF pour nous présenter ces 5 ans de la Duduchothèque à Châlons-Champagne. 5 ans, vous le disiez, à travers des expositions, alors des expositions à la fois permanentes, des expositions temporaires, mais pas seulement, on a retrouvé quand même pas mal de faits marquants durant ces 5 années.
Effectivement, on retient beaucoup de la Duduchothèque, ce sont ces expositions majeures. Mais il y a tout un fonds qui est disponible tout au long de l'année. Et 5 ans, c'est 5 ans d'exposition, 5 ans de conférences, 5 ans de résidence de journalistes et de dessinateurs. C'est aussi beaucoup de tables rondes avec des dessinateurs de presse, avec beaucoup d'auteurs. On pense à Coco, dessinatrice de presse très fidèle et qui nous accompagne régulièrement dans le cadre de la semaine de la presse. C'est également 5 ans de réflexion, 5 ans de rire. Effectivement, ce lieu, il se visite inlassablement, régulièrement, au fil des expositions. Vous avez certainement tous en tête les expositions type Cabu avant Cabu, Le rire de Cabu, Cabu, Vive les comédiens, récemment les présidents de Cabu, actuellement, et on peut encore le voir sur les cinémas, Cabu et Dorothée. Donc, que des rendez-vous à chaque fois très drôles, des rendez-vous conviviaux. On peut aussi se rappeler en 2022 que Coluche a été élu président de la Duduchothèque.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc plein d'événements, plein de festivités, parce que c'est effectivement un lieu où, de découverte à chaque fois et de moments conviviaux et agréables pour tous les publics.
Vous l'avez dit à plusieurs reprises, Emmanuelle Guillaume, le côté joyeux, le côté rire, parce que Cabu a toujours été quelqu'un qui a voulu faire rire à travers ses dessins. On l'a retrouvé à chaque fois, à chaque reprise dans ces expositions, que ce soit même des expositions, on peut dire, d'actualité. Ça a été le cas avec l'exposition des présidents lors de l'année des élections présidentielles. On était quand même sur un sujet quand même sérieux et pourtant, Cabu a voulu transmettre ses messages joyeusement.
Tout à fait. Cette exposition, comme un clin d'œil à Cabu, on avait voulu l'inaugurer un 1er avril. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets très sérieux qu'il est nécessaire de regarder avec un filtre et un regard que Cabu sait très bien nous proposer, avec toujours un petit pas de côté pour avoir un temps de respiration à chaque fois pour digérer les informations parfois lourdes, parfois pesantes, qui se passent partout dans le monde. Et Cabu avait ce talent, effectivement, de croquer une réalité et d'en révéler d'une façon très sérieuse, mais un côté un petit peu décalé, et c'est ça, toute la force et le génie de Cabu. Avec un simple crayon, il était assez révolutionnaire dans la façon de nous faire penser autrement.
Emmanuelle Guillaume, ces expositions permanentes, temporaires, durant ces 5 années, avec en parallèle des animations, vous l'avez dit, des ateliers, des conférences, des tables rondes. Il y a aussi un fait marquant dans ces 5 années de la Duduchothèque, c'est la fameuse voiture qui s'est installée dans la cour de la Duduchothèque.
Exactement, la trèfle, une magnifique voiture bleu marine, elle est en état, elle a été bichonnée par les amis, le cercle proche de Cabu. Donc elle est présente dans la cour de la Duduchothèque depuis mars dernier. Et là encore, c'est une façon d'être encore emmené en voyage. On s'imagine Cabu au volant de cette trèfle, profitant de temps de pause, se promenant un petit peu partout dans la région. Donc une trèfle, effectivement, que vous pouvez voir dans la cour de la Duduchothèque à chaque ouverture.
Quelques secondes, Emmanuelle Guillaume, sur toutes ces animations qui ont été proposées durant ces 5 années, rue Léon Bourgeois à Châlons-Champagne. Ces animations avec une équipe derrière, on peut peut-être faire un petit clin d'œil sur cette équipe mobilisée.
Effectivement, Pascaline, Anne-Sophie aux manettes pour faire de ce lieu un haut lieu culturel, un lieu identitaire pour Châlons. C'est effectivement une équipe qui se mobilise régulièrement pour scénariser au mieux ces expositions. C'est également une équipe qui propose un programme d'animation important autour de la pédagogie, autour de la recherche. Et c'est effectivement grâce à elle que la Duduchothèque a accueilli depuis son ouverture plus de 50 000 visiteurs.
Avant de nous quitter, Emmanuelle Guillaume, quelle perspective d'avenir pour la Duduchothèque ?
La Duduchothèque, c'est donc ce lieu majeur est nécessaire aujourd'hui et depuis toujours, mais encore plus pour travailler avec la jeune génération sur l'actualité, sur l'accès aux médias, sur l'information, sur la désinformation. Donc c'est un lieu qu'on se veut effectivement vibrant pour la jeunesse On espère encore accueillir beaucoup d'ateliers avec tous ces dessinateurs et ces journalistes qui nous accompagnent pour accompagner les jeunes dans leur esprit critique sur toutes les valeurs de la République qui étaient chères à Cabu. Et c'est également aussi des expositions majeures avec des expositions signatures chaque année qui permettront là aussi d'accueillir, je l'espère, encore un grand nombre de publics et d'amoureux et de Chalon et de Cabu.
Longue vie à cette Duduchothèque en hommage au dessinateur chalonnais Cabu. Merci Emmanuel Guillaume d'avoir été avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF, adjointe à la mairie de Chalon-Champagne en charge de la culture. La Duduchothèque située au 68 rue Léon Bourgeois à Chalon-Champagne. À très bientôt Emmanuel Guillaume et très bonne fête de fin d'année.
Merci Christophe, à bientôt.
Un lieu à découvrir ou à redécouvrir sans modération. C'était Emmanuel Guillaume et Christopher Fausten. La Duduchothèque est située au 68 rue Léon Bourgeois à Chalon-Champagne.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On y était, on y est bien, on y reste. On va à Chalon-en-Champagne de nouveau avec le natif de Chalon-en-Champagne, le photographe Christophe Manquillet, qui publie aux éditions Noir Terre son premier livre consacré au pays de Chalon. Lauréat des fonds européens Leader, ce projet s'agrémente d'une exposition itinérante à l'Office de tourisme de Chalon-en-Champagne. Christopher Fausten est parti à sa rencontre.
Christophe Manquillet, bonjour.
Bonjour.
Photographe qu'on connaît très bien dans le secteur de Chalon. On peut le dire d'ailleurs, Christophe Manquillet, un Chalonnais depuis de longues dates.
Ah oui, bien sûr. Je suis né à Chalon-sur-Marne il y a bien longtemps et j'y ai fait toutes mes études jusqu'au baccalauréat avant de partir un petit peu une dizaine d'années et de revenir m'y réinstaller pour travailler.
Photographe depuis tout petit ?
Tout petit, j'exagère pas. J'ai commencé la photo, j'avais 13-14 ans. Et après, j'ai voulu en faire très très vite mon métier. Je me suis renseigné sur les différentes possibilités de faire des études dans ce milieu-là. Et puis, ça a très bien marché pour moi, puisque j'ai réussi à entrer à Arles, à l'École nationale de la photo. Des études que j'ai complétées après par une année de journalisme, avant de me lancer professionnellement.
Et entre-temps, donc, passionné, on peut dire, par la photo, donc on disait depuis l'âge de 13-14 ans, à faire des photos dans le monde professionnel, mais aussi, j'imagine, par passion à côté. Et aujourd'hui, un livre est sorti et exposé à l'Office du tourisme de Chalon-Champagne, nommé Pays de Chalon. Alors, quand on dit Pays de Chalon, attention, on précise bien aux auditeurs, on ne parle pas que de Chalon-Champagne.
Non, c'est le territoire du Pays de Chalon qui correspond à la communauté de communes de Chalon, celle de Suippes et celle de la Moivre à la Caule, donc à peu près 75 km de haut qui va des Ardennes à l'Aube, du nord au sud, et sur 35 km de large, qui comprend 90 communes et environ 100 000 habitants.
Christophe Manquillet, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer, à la fois de faire un livre et ensuite d'exposer à l'Office du tourisme ?
De faire un livre, surtout, le projet, c'est en fait, tout est parti de la possibilité d'avoir une subvention par le fonds Leader. Le fonds Leader, c'est des fonds européens qui permettent de réaliser des projets dans le milieu rural. Et je me suis dit comment parler de mon territoire en tout en gardant cette ruralité et le territoire chalonnais au sens large, c'est le pays de Chalon. Donc voilà, j'ai voulu proposer à la fois un livre qui pour laisser une trace sur ce territoire, mais aussi une exposition qui se voudrait itinérante, qu'on pourra faire tourner sur les différentes communes, que ce soit Mourmelon, à Suippes, mais n'importe quelle commune, au Simon, Sommesous, etc., etc.
Alors quand on consulte votre livre, Christophe Manquillet, hein, sur Pays de Chalon, on retrouve de nombreuses photos, certes des photos en noir et blanc. Pour quelle raison ?
Pour affirmer mon autonomie par rapport à ce projet, d'une part, parce que je travaille uniquement, pour ceux qui me connaissent, sur des commandes, que ça soit pour la ville, la communauté d'Aglo, la Comète, etc. Et d'autres partenaires. Je travaille toujours en couleur, puisque aujourd'hui, la photographie, c'est la couleur. Mais je suis né dans la photo avec le noir et blanc argentique à l'époque. Et j'aime beaucoup. C'est un parti pris esthétique, le noir et blanc. Et l'idée pour moi, c'était vraiment de m'affirmer par rapport à une indépendance totale esthétique et de forme. par rapport au, à mon sujet que j'allais traiter.
Alors combien de photos on retrouve ?
On retrouve 150 photos dans le livre, 151 exactement.
151 photos à travers plusieurs thématiques, si je peux dire, à la fois dans le côté environnement, côté eau, côté culture.
C'est ça. En fait, les thèmes, quand on se promène, j'ai parcouru les 90 communes. Les thèmes s'imposent à eux-mêmes, c'est l'agriculture, c'est l'eau. L'eau qui décide où les hommes s'installent. L'histoire, bien sûr, très marquée par les guerres chez nous, notamment au nord du territoire. C'est aussi la ville, centre, Chalon. Voilà, c'est tous ces sujets qui s'imposent et le patrimoine aussi, évidemment.
Le patrimoine qu'on retrouve également dans ces 151 photos, donc dans ce livre, et également exposition. 151 photos dans l'exposition, en tout cas même pas.
Non, il n'y a pas la place à l'office de tourisme pour en mettre... Non, il y a 16 photos, grand format, 50 par 75, qui sont avec des tirages magnifiques, qui ont été faits par un laboratoire rémois. Et c'est à voir, c'est très très beau et très bien mis en valeur à l'office de tourisme, il y en a 16.
Cette exposition à découvrir donc à l'office de tourisme de Châlons-Champagne jusqu'au 30 décembre aux horaires d'ouverture. Merci Christophe Manquier, très bonne fête de fin d'année.
Merci, bonne fête de fin d'année à vous également.
Effectivement, des très bonnes fêtes de fin d'année à vous deux. On aura encore l'occasion de le dire à tous nos auditeurs d'ici vendredi 18h10, le jour où le magazine régional prendra un petit peu de vacances. Bonne soirée Kylian, à demain.
Bonne soirée Alexis, bonne soirée à tous nos auditeurs et nos auditrices.